Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Salut à tous, de retour donc pour cette nouvelle preview draft sur les antennes de Touchdown Actu pour ce 418e numéro où ça va déménager. On peut déjà le dire très très clairement, ça va parler mobilité, main violente, tout le tintouin, puisqu'on va forcément aborder la ligne offensive avec de nouveau pas mal de prospects très intéressants à suivre et qu'on devrait retrouver assez nombreux, notamment le premier jour de la draft. Et pour en parler, bien entendu, notre expert repêchage est bien là, Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi.
Salut Grégory, bonjour tout le monde.
Et très heureux de t'avoir avec nous de nouveau pour aborder donc cette partie où on inclura donc les tackles et les linemen intérieurs. Une première partie où on développera notamment les deux principaux chapeaux, des têtes d'affiche en l'occurrence sur ces positions-là. Et la deuxième partie qui sera traditionnellement consacrée aux valeurs sûres, aux énigmes et aux pépites de cette QV 2021. C'est donc parti pour la première partie.
Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
Avec donc pas mal de clients, notamment trois joueurs que vous avez déjà retrouvés dans le podcast Top 15, auquel je vous invite à vous référer pour avoir plus de détails, notamment sur les trois joueurs concernés dont on va parler. Il s'agit en l'occurrence de Penei Sewell, tackle d'Oregon, 1m98 pour 147 kg. Rashawn Slater, lineman offensif de Northwestern, 1m94 pour 143 kg. Et Christian Darisso, joueur de Virginia Tech, 1m98. Pour 142 kilos, donc on l'a dit, on a détaillé un petit peu les différents profils, Jean-Mi, notamment lors du podcast lié au top 15. On avait également parlé dans un précédent podcast, dans une chronique Tu préfères, hein, pour comparer différents protagonistes. On va donc, là encore, te plonger dans la peau d'un GM, hein, tu commences à avoir l'habitude maintenant, hein, tu vas bientôt pouvoir prendre la place de Mike Mayock.
Oui, oh là là.
Voilà, j'ai pas trouvé plus sobre comme comparaison, mais voilà, en tout cas, savoir un petit peu selon les différents critères vers qui ton cœur penche. Et en l'occurrence, il y a pas mal de clients, même si on le dit tout de suite, Penei Sewell, c'est un peu comme Trevor Lawrence, il y a un petit phénomène, donc on va essayer d'énumérer ça rapidement. Alors si je te demande le profil le plus physique entre ces trois hommes.
Bah, Penei Sewell, c'est un monstre. Alors on va parler de ses aptitudes, sa mobilité, sa technique, etc. Mais déjà au niveau du gabarit, c'est un monstre. Je veux dire, si tu prends ses mensurations, son gabarit, et que tu regardes un petit peu les tackles qui sont en NFL, bah, tu as du mal à trouver quelqu'un qui correspond. À part le rookie des Bucks, Tristan Wirfs, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il est grand, il est lourd, il est puissant, il a vraiment tout ce qu'il faut. Impressionnant.
Ouais, très 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 clairement. Bon, après, voilà, d'un point de vue purement gabarit, on voit que c'est celui qui pèse le plus lourd. Mais on a vu aussi que du côté d'Oregon, en effet, il y a un panel qui lui permet notamment, d'un point de vue physique et agressivité, d'être vraiment impressionnant. Le plus explosif.
Le plus explosif, moi je dirais Slater. Slater, parce que c'est pas, il est pas super rapide, etc. Mais alors lui, c'est vraiment avec ses mains violentes, tu vois, comme tu aimes bien le dire. Il est vraiment, il t'explose le defensive lineman. Donc voilà, dès que le ballon est engagé, il est en mouvement et puis pam, 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 ça, voilà, ça dépote.
Ouais, c'est sûr. En effet, je rejoins tout ce que tu as dit. Je vais pas plus développer, mais de toute façon, on a trois spécimens assez impressionnants en termes d'explosivité. Il faut rappeler que c'est trois joueurs également. Alors, il y en a qu'un qui a joué en 2020, hein, puisqu'en l'occurrence, Penei Sewell et Rashawn Slater, on le rappelle, se sont mis en retrait par rapport à la Covid. Il y a que Christian Darrisso qui a joué à Virginia Tech, mais en l'occurrence, c'est trois joueurs qui ont principalement évolué dans des attaques. Sewell, c'est un peu moins marqué. Oregon, c'est beaucoup plus orienté, je trouve, sur le jeu au sol cette année, en 2020. Mais ils avaient quand même pas mal d'armes, dans le domaine offensif, dans le backfield offensif en 2019, quand Sewell y était. Donc, c'est des joueurs qui, en tout cas, sur le jeu au sol et sur la capacité à être en mouvement, sont extrêmement dangereux. Et franchement, il n'y a pas une différence vraiment monstrueuse entre les trois profils, même si je te rejoins. Rashawn Slater du côté de Northwestern, c'est plus à démontrer que les linemen des Wildcats sont assez performants dans ce registre-là. D'un point de vue technique, qui te rassure le plus ?
Penei Sewell. Même s'il a encore du développement à faire, surtout que voilà, il a raté cette saison, ça lui aurait fait du bien de jouer encore cette année. Mais quand même, techniquement, c'est celui qui me rassure le plus, c'est celui qui me paraît le plus complet à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'équilibre du corps, que ce soit, tu sais, l'axe entre les épaules, les hanches et les pieds. Enfin, il est vraiment très équilibré au niveau de sa technique. C'est, je vais pas dire irréprochable, ça sera un rookie, il aura des progrès à faire, mais c'est celui qui me rassure le plus.
Oui, c'est ça. Et encore une fois, j'insiste dessus, mais en ratant cette dernière année universitaire, en choisissant en tout cas de rater cette dernière année universitaire, c'est un joueur qui a été dominateur très jeune, hein, et qui du coup déjà a pu s'appuyer sur une base de travail extrêmement importante, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'il y a forcément cette année en moins, compose avec beaucoup d'armes à sa disposition, dont en effet le domaine technique, où il y a des choses qui peuvent être rectifiables, mais c'est le cas de tous ceux qui se présentent à cette classe, en tout cas sur la position. Mais lui, en tout cas, il y a peut-être plus d'acquis très clairement dans ce registre-là. On passe à la mobilité. Alors, la mobilité qu'on a découpée en deux, enfin, me concernant en tout cas. La mobilité latérale, notamment sur la question du pass pro. Qui te rassure dans ce domaine-là pour, si je peux parler ainsi, être le plus à même de jouer à gauche ?
Ben, moi, je dirais Christian Darrisso. C'est celui qui me paraît le plus mobile. C'est celui-là que j'aime le plus en tant que protecteur, donc en tant que left tackle, celui-là qui protège le côté aveugle. Puisque bon, côté aveugle, on va le dire en deux mots, c'est la plupart des quarterbacks sont droitiers, même la grande majorité sont droitiers, donc du coup, lorsqu'il reçoit le ballon, il a tendance à tourner ses épaules vers la droite, et donc moins voir ce qui arrive de son côté gauche. C'est pour ça qu'on parle de côté aveugle. Et donc avoir un Christian Darrisso sur ton côté aveugle, c'est-à-dire sur ta gauche, c'est vraiment une assurance que le pass rusher qui arrivera de ce côté-là sera bien bloqué, parce qu'il est grand, parce qu'il est agile. Dans un précédent podcast, je parlais de dancing bear, c'est-à-dire il est bâti comme un ours, mais il a des pieds très légers. Voilà, mobilité, Christian Darrisso.
Et alors justement, sur la mobilité, on va dire pour l'aptitude à monter sur le deuxième rideau, qui est devenu vraiment prépondérable, notamment sur le jeu au sol, vers qui va ta préférence ?
Ben, les trois le font très bien, mais je vais te dire aussi Christian Darrisso. Pourquoi ? Parce qu'il vient de Virginia Tech. La semaine dernière, on parlait du coureur Khalil Herbert. Ben, Virginia Tech, c'est ça. Tu vois, j'ai checké un peu leurs stats là en 2020. En fait, en moyenne par match, ils ont tenté 23 passes et 43 courses. Donc voilà, ça te donne le ton, quoi. C'est une équipe qui courait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Christian Darrisso, pour courir, il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire au niveau de la ligne d'engagement, quand il fallait être solide, ou alors au niveau du décrochement. Pas de problème avec Christian Darrisso. Il décroche sur le second rideau, il va te tamponner un linebacker, lui faire un pancake, et c'est parti pour la course.
Ah, sur de la zone, c'est sûr que Darrisso, ça va être un profil rêvé. Et en plus, pour le coup, vu que tu vantais sa mobilité et contre la passe, enfin et sur la protection de passe et sur le bloc à la course, faut quand même rappeler ce qui est peut-être un petit peu plus à mettre à son crédit, je trouve, notamment sur la campagne 2020. Il y a peut-être une adversité qui est plus à mettre à son crédit. En l'occurrence, que Sewell qui a rencontré des clients dans la Pac-12, mais de manière un peu moins importante. Et encore une fois, Slater, il y a beaucoup ce côté où il a maîtrisé notamment un Chase Young à Ohio State. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins de références également dans ce domaine-là. Et Darisso, dans la CC, il a vu quand même pas mal de diversité. Je pense que ne serait-ce à Miami ou Pittsburgh, par exemple, qui sont deux programmes qui vont sortir pas mal de pass rushers lors de cette campagne. Donc voilà, ça reste un joueur qui a vu beaucoup de choses. Et c'est aussi là-dessus qui rassure, même si, comme tu le disais, il y avait pas c'était pas forcément un système offensif qui était toujours très équilibré. Mais en tout cas, il a rassuré dans pas mal de secteurs à ce niveau-là, de par sa mobilité. Niveau caractère, leadership.
Ah, moi, je dirais Penei Sewell. Parce que c'est quelqu'un qui est titulaire depuis qu'il est freshman. C'est quelqu'un qui a jamais fait de vague, au contraire, dans un vestiaire. C'est un vrai leader. Sur le terrain, il répond toujours présent. Donc, c'est pas que j'ai des doutes sur les autres, hein, mais si j'en ressors un, c'est Penei Sewell.
Ouais, c'est sa grosse maturité. Joueur qui est issu d'une famille, notamment de joueurs, hein. Je crois que c'est le frère aîné, notamment. Il y a deux de ses petits frères qui jouent, dont l'un d'eux est à Oregon depuis peu. Et oui, il a ses deux oncles, j'ai un doute. Il y a ses deux oncles, notamment Sopo Aga, un ancien lineman défensif des Niners qui sont passés en NFL. Donc voilà, il y a quand même un certain vécu et très clairement, j'en parlais tout à l'heure, une maturité, le fait d'être aussi dominant dès l'âge de 19 ans, d'être placé côté aveugle dans une ligne offensive d'Oregon qui était déjà très performante à l'époque. En étant paradoxalement le plus jeune même de l'escouade, hein. C'est ça qui est assez bluffant. Donc ouais, je te rejoins en effet sur le côté vraiment figure de vestiaire. Je pense que ça peut être un joueur vraiment important, même si c'est peut-être pas celui qui va crier le plus fort. En tout cas, ça va très clairement être l'exemple à suivre pour tenter d'aller chercher la victoire. En termes de marge de progression.
Marge de progression, c'est une bonne question. J'ai envie de dire Darisso aussi, parce que c'est pas un inconnu, hein. On le connaît depuis 2 ans déjà, même 3, mais c'est vrai qu'il a explosé cette année. Donc du coup, s'il reste sur cette lancée, c'est peut-être lui qui a la plus grande marge de progression, moi je pense. Alors que Rashawn Slater, par exemple, il me donne l'impression d'être un joueur un peu plus abouti. Et je sais pas si avec ses limites de gabarit, il pourra aller vraiment plus haut. Alors il est déjà à un très bon niveau, hein. Et Penei Sewell, bon ben voilà, comme tu dis, depuis qu'il est freshman, il domine, donc il va bien entendu progresser. Mais si je prends la plus grande marge de progression, pour moi, ça serait Darisso.
Bah, alors c'est vrai que ce qui est assez intéressant, alors moi je t'avoue j'étais allé vers Slater dans le sens où il y a cette interrogation sur son poste préférentiel, hein, on l'a dit assez souvent, est-ce que ce sera un meilleur tackle, est-ce que ce sera un meilleur guard, sachant qu'il y a beaucoup d'aspects qui pourront lui permettre de performer dans les deux domaines, hein. C'est clairement un luxe de pouvoir utiliser un joueur, en tout cas je vais pas anticiper sur la question suivante, mais en tout cas c'est ce qui peut l'aider à être utilisé beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent. Mais c'est vrai que paradoxalement, Slater, je prenais l'exemple de Sewell qui avait joué sur une grosse ligne à Oregon, Darisso était sur une grosse ligne également à Virginia Tech. Et très clairement, Slater, c'est, sans faire injure à la O-line de Northwestern qui était bonne, c'était vraiment le point majeur, je trouve, des Wildcats, notamment quand il y était. Et c'est là, en effet, où d'un côté, il y a une marge de progression et de l'autre côté, où on se dit il y a quand même des sérieux acquis au-delà de la question de où est-ce qu'il va vraiment être capable de donner sa pleine mesure à l'échelon supérieur.
Oui, c'est clair. Après, moi, je le vois bien rester tackle quand même, Slater en NFL, mais c'est vrai que le plus gros doute, c'est pas tellement son manque de taille, mais c'est un petit peu son manque de bras, à la limite, tu vois, d'allonge. Alors, c'est pas un T-Rex, hein, on va pas abuser non plus, mais c'est vrai qu'il a les bras un petit peu courts, et ça, pour rester vraiment à l'extérieur en NFL, ben, ça pose question, c'est à voir. Après, il compense aussi par son jeu physique, mais ouais. Voilà, il y a cette limite-là.
Très clairement. Ton titulaire le plus probable en day one ?
Ah, Penei Sewell.
Oui, ça me paraît pas mal aussi. Ouais. Ouais. Du coup, pour toi, tu vois les 3 candidats potentiellement dès la première année côté gauche ?
La seule restriction, voilà, ça serait Rashawn Slater. Parce que ouais. Justement, c'est au niveau de la longe, en fait. Parce que bon, la mobilité, il a, la puissance, il a, il est nasty, il va au contact, il est très physique. Donc ça peut très bien, hein. Il me faisait penser à Dwayne Brown, par exemple, tu vois, ce joueur vraiment dur au mal. Mais cette limite physique fait que, il faudra voir. Je pense qu'il sera titulaire day one, mais est-ce qu'il sera vraiment sur l'extérieur, ça j'en suis moins sûr. Alors que pour les deux autres, j'ai aucun doute. Ils seront titulaires en tackle.
Ouais, moi je le vois peut-être switcher guard, tackle droit, peut-être la première année, et vraiment après en fonction des situations, des questions contractuelles également, en fonction de la franchise dans laquelle il tombe. Ce serait pas étonnant qu'en deuxième année, il se retrouve déjà avec la responsabilité d'un poste de tackle gauche, si vraiment il donne la pleine satisfaction, bien entendu, à l'équipe qui l'aura drafté. À ce moment-là, on a fait le tour sur ce premier chapeau. On va aborder dès à présent un deuxième chapeau assez fourni, puisque encore une fois, il y a pas mal de clients. En l'occurrence, on a 3 tackles purs et 3 lineman intérieur, ou en tout cas, on va y revenir tout de suite, parce qu'il y a un profil clairement hybride, dont on a parlé tout de suite, Alijah Vera Tucker, lineman de USC, 1m95 pour 136 kilos, joueur qui a principalement joué garde hein, au début de sa carrière universitaire du côté de USC, qui était prioritairement, même quasi exclusivement, tackle gauche cette année chez les Trojans avec le succès qu'on sait, hein, puisqu'il a fait une excellente campagne. Maintenant, est-ce que, pour toi, il peut être un tackle émérite chez les pros?
Oui, moi je pense. Je pense parce qu'il a la taille, il a l'envergure et il a les qualités athlétiques. Donc je pense que oui. Alors c'est vrai qu'on l'a vu en tant que garde, il avait été bon d'ailleurs, garde. Et donc du coup c'est une richesse pour une franchise parce qu'il a vraiment cette polyvalence. Mais je pense qu'il a vraiment tous les attributs physiques et même techniques, vu ce qu'il a montré cette année, pour jouer à l'extérieur en NFL.
Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y avait cette comment dire cette agressivité en effet ça là, on parlait de map violente sur d'autres secteurs, on a vu des matchs notamment où il s'est vraiment régalé dans cet exercice là et très clairement c'est un joueur qui va être difficile à manœuvrer. On l'a vu par exemple, je sais que le match contre Oregon par exemple, il avait été parfois en difficulté face à Thibodeau qui va être un gros prospect à venir en l'occurrence, donc faut savoir aussi voilà à qui il avait affaire ce jour-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, il ne rassure pas totalement sur le côté extérieur. De part, je ne sais pas encore s'il a une mobilité suffisante. Après, à terme, oui, sans doute qu'il l'aura. Sans doute qu'il pourra être utilisé. Encore une fois, je n'ai pas de comparaison à l'instant T. Mais ouais, ça peut être, je pense, un bon tackle gauche dans un premier temps. Et peut-être, ouais, deuxième, troisième année en fonction de l'équipe dans laquelle il tombe. Ce serait pas étonnant qu'on tente le pari. En tout cas, il y a eu des belles promesses de ce qu'on en a aperçu en 2020, très très clairement. C'est pas typiquement le garde qu'on a mis tackle gauche une année parce que c'était le meilleur joueur de l'escouade. C'est aussi parce que c'est un joueur qui sait se montrer dominant et qui sait se faire respecter quand il faut protéger côté aveugle. Donc voilà, il y a des bonnes bases et très clairement, ça va être un profil intéressant à surveiller. Ta projection, en l'occurrence, on n'a pas parlé des trois premiers qui sont quasiment sûrs d'être au premier tour, à mon sens. Vera Tucker, ce serait compliqué qu'il descende en dessous également.
Oui, moi je pense aussi qu'il est au premier tour, tu vois. Ouais. Moi, une comparaison, j'en ai une qui me plaît pas trop mal, c'est John Dawkins des Bills. Oui. Voilà, parce que lui aussi, on avait les doutes quand il est sorti de l'université. Est-ce qu'il va rester guard? Est-ce qu'il va jouer tackle? Et puis finalement, non, tu vois. C'est deux joueurs avec des qualités athlétiques, avec de l'envergure. Et alors, Elijah Vera Tucker, il a fait qu'une saison de tackle. C'est pour ça aussi qu'on a un petit peu des doutes. Mais je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour rester à l'extérieur.
Oui, non, très clairement, je te rejoins, c'est une comparaison qui me paraît judicieuse.
Et donc premier tour, ouais, pardon.
Oui, premier tour également pour moi. Le contraire m'étonnerait, il y a trop de facultés physiques et athlétiques cumulées pour faire qu'une équipe NFL va se dire « Oh, je peux attendre le vendredi ». J'ai des gros doutes là-dessus. Deuxième joueur, profil extrêmement atypique également, qui lui, pour le coup, est tackle, mais qui a joué exclusivement à droite, en l'occurrence du côté d'Oklahoma State. Steven Jenkins, 2m01, 143 kilos. Alors, il est beaucoup caricaturé parce que il a la tête du nerd de la classe. Mais en attendant, c'est un joueur extrêmement agressif et dont on commence à avoir de moins en moins de doutes sur son aptitude à jouer, pour le coup, côté aveugle en NFL.
Ouais. Alors, lui, c'est un nerd qu'il ne faut pas trop chercher, quoi. Hein, parce que,
oui. Tu copies pas toujours sur lui.
Ce qui t'en met une, c'est bon, laisse tomber. Ouais. Très, très physique, très imposant, très solide, très fiable comme joueur. Alors, c'est vrai que la seule restriction, c'est qu'il a joué tackle droit tout le temps. Alors, c'est très bien. Hein, mais changer de côté, c'est pas toujours aussi évident qu'on le dit. Ça se fait pas en claquement de doigts de changer ses habitudes de jambes d'appui, de façon de sens de quand tu recules, etc. Mais il a cette capacité-là. Moi, j'aime beaucoup ce tackle. Vraiment, c'est un nom dont on parle finalement assez peu, Tevin Jenkins. Mais vraiment, je ne serais pas surpris qu'il parte au premier tour.
Oui, c'est ça. Je pense que pour vraiment évoluer côté aveugle, il y a peut-être une technique à perfectionner, notamment la technique du bas du corps. Il y en a beaucoup qui lui ont reproché. Alors, moi, ça ne m'a pas autant sauté aux yeux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui a été reproché. C'est vrai que face à Oklahoma State, on n'est pas forcément l'habitude de rusher énormément. On ne va pas revenir sur les défenses de Big 12, hein. On sait que ce n'est pas les meilleurs, très clairement, des principales conférences universitaires. Mais en tout cas... voilà, a priori, certains jugent qu'il n'a pas forcément eu l'adversité suffisante, en tout cas sur une base régulière, ce qui peut s'entendre, mais en tout cas, voilà, de l'échantillon qu'on a eu côté droit, je ne sais pas si la comparaison est juste en l'occurrence, mais c'est vrai que ça peut très bien être un Jedrick Wills, par exemple, qui a joué quasiment exclusivement tackle droit à Alabama, et qui, en tant que tackle gauche cette année du côté de Cleveland, n'a clairement pas déçu.
Ah oui, c'est clair. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, j'avais Wills quand même au-dessus. Hein. C'était mon tackle numéro 1 l'année dernière. Non. Mais oui, au niveau du profil, oui, ouais, tout à fait.
Voilà. Parce qu'on reste quand même dans une attaque très axée sur le jeu aérien aussi.
Ouais.
Donc voilà, après c'est sûr que le jeu d'Alabama et le jeu d'Oklahoma State ne sont pas exactement similaires et que Tevin Jenkins a l'air un peu plus brut en sortant de Stillwater que ce que pouvait être Jedrick Wills du côté de Tuscaloosa. On parlait de tackle de la Big 12, on enchaîne dès à présent avec Samuel Cosmi, 2m04 et 136 kg, le tackle de Texas. Ça s'indique un peu avec les mensurations, mais un joueur extrêmement longiligne et extrêmement athlétique.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, il est très fluide, il est très bon en protection. C'est vraiment un tackle gauche, quoi. Parce que vraiment, il a cette mobilité pour faire le miroir avec les pass rushers. En plus, il a beaucoup d'expérience. Je crois qu'il a 34 ou 35 matchs avec Texas. Il a vu beaucoup de choses. Après, voilà, le revers de la médaille de son physique, c'est que justement, comme il est grand, il a parfois du mal à jouer bas sur ses appuis, à être costaud dans le duel, mais niveau protection, c'est un très très bon tackle.
Ouais, je sais pas si ça aussi c'est ce sera une bonne comparaison, mais il me fait un peu penser à un Anthony Castonzo, par exemple, en sortie de Boston College. Clairement pas le tackle gauche le plus glamour, le plus sexy, celui sur qui tout le monde va avoir les yeux, mais en tout cas un joueur qui est toujours performant, qui est toujours au rendez-vous, et Samuel Cosmi, en tout cas, a cette faculté, et c'est ce qui en fait très très clairement un potentiel premier tour. Je t'ai pas posé la question pour Jenkins. Du coup, pour Jenkins et Cosmi, ce serait quoi ta projection?
Ben, moi, je les vois aussi au premier tour. Hein. Ils ont vraiment ce niveau-là. Hein.
On rappelle généralement, alors on peut le dire, hein, c'est souvent évoqué lors de la draft. En fin de premier tour, on va souvent vers un choix un peu sûr, surtout si on a des besoins sur l'extérieur de la ligne. Les tackles, c'est un peu un choix de complaisance par moment. On se dit qu'on a le moins de chances de se tromper. Mais là, en plus, cette année, quand on voit la classe. Ouais. Il y a des joueurs qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'évoquer aujourd'hui qui peuvent en plus prétendre au premier tour aussi. Je pense à un Jalen Mayfield, par exemple, du côté de Michigan, qui est un peu plus brut. Mais c'est sûr que Jenkins et Cosmi, en tout cas, ont les facultés, en plus de par ce qu'on évoquait, de par leur potentiel de jouer à gauche. Il y a quand même très très clairement une possibilité, une forte chance de les voir sortir dès le premier jour de la draft. On termine avec les tackles dans ce deuxième chapeau, avec Liam Eikenberg, tackle de Notre-Dame, 2m01 et 138 kg. Alors c'est peut-être l'inverse en l'occurrence de Cosmi, c'est-à-dire qu'on a affaire à un énorme physique, mais peut-être encore des qualités athlétiques à parfaire.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est le petit chouchou de Victor, hein, on lui passe le bonjour. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il est très solide, très physique. Il joue lui aussi avec un état d'esprit vraiment de combattant. Donc moi j'aime beaucoup, il a beaucoup de qualités. Après, c'est pas le plus athlétique, effectivement. C'est-à-dire qu'au niveau de la mobilité, par exemple, il fait également des erreurs. C'est ça qui est un petit peu dommageable. Donc c'est pas le profil le plus excitant. Mais c'est un tackle qui, voilà, va faire sa carrière en NFL parce que la fiabilité, la solidité, tout est là, l'état d'esprit.
C'est ça, c'est un joueur qui est difficile à franchir. Après, paradoxalement, pour un tackle de Notre-Dame, je trouve que cette technique parfois laisse un peu à désirer. C'est peut-être par exemple ce qui le dessert par exemple par rapport à un profil comme Mike McGlinchey, qui est sorti il y a quelques années de Notre-Dame et qui d'ailleurs, alors, il va peut-être passer à gauche, mais il semble que pour l'instant il joue exclusivement à droite du côté de San Francisco. Il y a cette interrogation avec Eikenberg, c'est-à-dire qu'on a pas mal de profils, mine de rien, qui vont sortir d'université en ayant joué massivement à droite, mais qui peuvent jouer à gauche. Eikenberg, on va peut-être se retrouver justement, de par ses difficultés en termes de mobilité, sur un joueur qui a exclusivement joué à gauche, qui a quasiment pas concédé de sac d'ailleurs, aucun d'ailleurs, il me semble, ces deux dernières années,
ouais.
du côté de South Bend, et qui paradoxalement peut se retrouver à droite justement de par ses lacunes, entre guillemets, physiques.
C'est ça, mais par contre, voilà, il est très costaud, très physique. Il me fait penser un peu à Taylor Decker, tu vois, des Lions. C'est voilà, ce type de grand gabarit solide qui va au charbon.
Par contre, sur la course, son agressivité lui est précieuse.
Oh là là, oui, oui, oui.
Voilà, donc ça va être ton estimation, premier tour quasi assuré. Moi, j'avoue, j'ai premier, deuxième. J'avoue, vu la masse de tackles, c'est ce qui le dessert un peu. Mais très franchement, si moi j'étais general manager, il serait premier tour de mon board.
Ouais, t'as tout dit en fait. C'est vraiment la quantité, la qualité en quantité qu'il y a cette année au niveau des tackles qui peut le desservir. Il serait un premier tour quasi assuré tous les ans. Là, il sera peut-être en début de second.
Ouais. On passe au lineman intérieur pour terminer ce deuxième chapeau. Wyatt Davis. Garde d'Ohio State, 1m95 pour 140 kg. point d'ancrage majeur du côté d'Ohio State, hein, garde du corps particulier de Justin Fields, notamment du côté de Columbus. Joueur qui a été extrêmement performant et sur le pass pro et sur le jeu au sol.
Oui, c'est ça. Moi, écoute, j'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes chouchous de la draft. Pour moi, c'est un premier tour, mais largement assuré. Par contre, je suis surpris des fois dans les mock drafts. Je le vois souvent au second tour. Moi, je comprends pas parce que justement, il est très bon en protection. Il est très bon pour le jeu au sol aussi, que ce soit sur la ligne ou que ce soit en décrochage. Le seul truc qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est que il domine ses adversaires la plupart du temps, et puis des fois il les domine pas. Et tu te demandes pourquoi sur certains jeux, tu te demandes comment ça se fait.
Mais ouais, sinon, je trouve qu'il a des petits problèmes d'équilibre. C'est déjà ce que j'avais souligné, je sais plus sur quel face-à-face lors d'un précédent podcast. Mais c'est vrai qu'il a ce côté, notamment quand il va sur le deuxième rideau, tu sens qu'il est un peu dans la précipitation. Ouais, il y a peut-être un manque de patience et la volonté peut-être de vouloir trop rapidement finir son mouvement, et ce qui fait que ça va le desservir, ça va l'amener à trébucher un petit peu, et c'est peut-être ce qui peut poser problème. Après, il y a eu sa blessure également en fin d'année,
oui,
qui peut peut-être jouer contre lui. Mais je te rejoins, c'est un joueur extrêmement complet, comme on en trouve souvent d'ailleurs des linemen intérieurs d'Ohio State qui arrivent en NFL avec quand même un package assez conséquent. Là, franchement, j'ai mis premier et deuxième tour, mais franchement, on cite beaucoup l'exemple des Ravens, par exemple, qu'on ait besoin sur la ligne intérieure. On aura le temps de parler des équipes, hein. On rappelle qu'il y aura des capsules journalières, des capsules audio journalières consacrées aux franchises de la fin mars au jour de la draft pour développer là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il y aura quand même des équipes suffisamment intéressées sur la O-line pour éventuellement se pencher sur le cas de Wyatt Davis.
Ouais, comme les Chiefs, par exemple, tu vois.
Oui. Ah oui, sur l'intérieur, ils ont un peu souffert sur certains matchs.
Un peu.
donc très très clairement à surveiller. Et puis voilà, peut-être la réactivité en règle générale pour Wyatt Davis à perfectionner. Mais bon, voilà, c'est sûr que quand on sort d'un contexte d'Ohio State où on est très souvent dominateur, c'est souvent amplifié, on dira, les quelques fois où on va avoir ces fameux trous d'air que tu évoquais tout à l'heure, ces petites inhabitudes qu'on peut voir. Mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça à l'heure actuelle. On termine avec Creed Humphrey, lineman intérieur d'Oklahoma. Alors, il a joué centre massivement du côté des Sooners. 1m96 pour 141 kg. Je dis ça aussi parce que c'est un joueur bonne technique. On va dire ancré sur ses appuis assez facilement. Difficile à passer, mine de rien. Pour un centre, c'est pas des profils qu'on voit tous les jours arriver en NFL.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est un centre, mais il a vraiment le gabarit pour jouer guard s'il y a besoin. Il n'y a pas de souci, il a ce gabarit-là. C'était en plus un lutteur au lycée, donc il sait jouer bas sur ses appuis, il sait être à la lutte avec un gros gabarit en face de lui. Et puis il a une technique, et puis il a beaucoup d'expérience aussi avec Oklahoma, il a beaucoup joué. Donc ouais, très bon joueur.
C'est un peu comme Sewell, c'est un joueur qui est quasiment dès sa saison freshman, ouais, sur une ligne qui était quand même... alors, il n'y a peut-être pas que des grands noms NFL, mais en tout cas, il y avait par exemple un Cody Ford hein, qui joue aujourd'hui à Buffalo. Voilà, ça restait quand même le leader principal et ça a été vanté. Il a fait un bon Senior Bowl également. Donc, très franchement, c'est un joueur... On aurait presque... S'il n'était pas dans un deuxième chapeau, on aurait presque pu le mettre en valeur sûre, tellement c'est quelqu'un qui rassure très clairement. Alors après, bon, je ne vais pas refaire le tableau des équipes Big 12, des défenses Big 12. Hein, j'en ai suffisamment parlé tout à l'heure avec Jenkins.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mais bon, voilà, on voit quand même que, notamment face à des nose tackles, c'est pas quelque chose qui lui fait peur et il a pu se montrer dominant, même si ça n'a peut-être pas toujours été le cas. mais en tout cas, il a quand même là encore cette base et cette capacité à être réactif dès le snap pour vraiment mettre à mal des nose tackles. Donc vraiment, ça peut être quelque chose d'intéressant avec, en plus, tu disais, cette faculté à être polyvalent et à pouvoir jouer garde en NFL. Ta projection ? Moi, j'avoue, je l'ai premier, deuxième également.
Oui, premier, deuxième. Parce qu'au premier, tu vois, les Ravens, ils pourraient l'utiliser. Les Steelers, avec la retraite de Pouncey, ils pourraient l'utiliser aussi. Ça ne me choquerait pas du tout au premier tour. Après, oui, ça peut être aussi un début de deuxième tour à Miami, par exemple.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est toujours le revers de la médaille pour les centres. C'est-à-dire que de toute façon, il ne faut pas s'attendre à en avoir énormément, même si on le répète, il y a quand même une polyvalence à mettre à son actif. On a terminé donc avec les deux premiers chapeaux. On enchaîne dès à présent avec les valeurs sûres, les énigmes et les pépites.
Salut, c'est Laurent du Vendée Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu.
Et pour commencer, les valeurs sûres, Jean-Michel, on va parler d'un centre, justement un centre d'Alabama, London Dickerson, 2m01, 148 kg, joueur champion national avec le Crimson Tide, ancien transfert de Florida State, qui a eu des petits soucis de blessure en fin d'année, mais qui franchement, du côté d'Alabama, a quand même globalement été un modèle.
Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup London Dickerson. Voilà, j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup ? Parce qu'il est très costaud. C'est vraiment un gros gabarit sur la ligne. En plus, c'est un leader, mais vraiment le leader de vestiaire. On va me dire que j'y étais pas dans le vestiaire, mais il y a des images qui trompent pas. Tu vois, il était blessé pour la finale universitaire. Son entraîneur, Nick Saban, le fait rentrer tout à la fin pour jouer le dernier snap, histoire de dire, voilà, tu es notre leader, tu vas rentrer, tu vas faire un jeu. Tous ses coéquipiers lui sont tombés dessus, l'ont félicité. En fait, c'était vraiment le leader. Donc, il est costaud, c'est un leader. Pour moi, il a tout d'un premier tour de la draft. Le souci, c'est, tu parlais de ses blessures, t'as parlé de la blessure 2020. Le problème, c'est qu'il a été blessé, mais depuis 4 ans, il est blessé. Il a tout le temps une blessure. C'est ça le problème de London Dickerson. Parce qu'en plus, j'ai pas non plus dit qu'il est polyvalent. Il a joué tous les postes. Il a joué garde, il a joué centre, il a joué tackle. C'est vraiment un monstre, ce joueur. Mais il a un problème de blessure. C'est récurrent. C'est le problème.
Alors, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de comparer les deux hommes. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans une situation pré-draft un peu similaire à celle de Billy Price d'Ohio State il y a quelques années. Qui avait eu un peu qui était hyper dominateur du côté d'Ohio State. Encore une fois, je ne compare pas les deux bonhommes. Je préfère ce que j'ai vu de Dickerson sur sa période à Alabama que ce que j'avais vu de Billy Price à Ohio State dans deux systèmes qui étaient diamétralement différents à mon sens. Mais il y a ce côté en effet où rien ne va empêcher une équipe de tenter le pari au premier tour parce qu'il y a un talent qui est indéniable. Mais c'est vrai que voilà, et c'est aussi pour ça qu'on le met en valeur sûre, hein, c'est que voilà, en tant que centre, ça va être un joueur qui clairement va faire le boulot et qui va être vraiment un meneur d'hommes offensivement pendant pas mal d'années. Mais bon, c'est difficile d'occulter très clairement l'état de santé du bonhomme, ça c'est sûr. Surtout que c'est une déchirure des ligaments croisés, il me semble, qu'il a eu.
Et il a eu un peu tout, quoi, depuis 4 ans.
Oui,
ouais. Et ouais, c'est le problème, quoi.
Mais en tout cas, encore une fois, que ce soit à Florida State ou à Alabama, il a quand même toujours donné satisfaction. Donc, ça paraissait compliqué de ne pas le mettre dans les valeurs sûres, en l'occurrence. Premier, deuxième tour en termes de projection, quand même.
Ouais. Si une équipe vraiment le veut, il peut le prendre au premier tour. Il a le talent pour, mais je penserais.
C'est ça qui est paradoxal, encore une fois, parce qu'on va sûrement me reprocher de me dire que Rondale Moore, par exemple, qui avait des soucis de blessure, je l'avais plutôt mis dans les énigmes. Là, en l'occurrence, il y avait plus d'énigmes, à mon sens, à mettre éventuellement dans les linemen. Mais c'est vrai que Rondale Moore, pour le coup, j'ai du mal à en faire un premier. London Dickerson, je trouve qu'il y a quand même suffisamment le bagage pour vraiment en faire un premier tour, ne serait-ce que le bagage physique et athlétique, alors que Rondale Moore, par exemple, on évoquait un physique qui peut parfois le desservir, surtout par ses problèmes de blessure. Là, Dickerson, il y a quand même de sérieuses armes à disposition. Mais bon, faut quand même croiser les doigts, en effet, pour que tout se goupille bien d'un point de vue santé. Après, tu le disais, hein, Nick Saban, c'est pas le coach du coin qui va dire, bon, bah, je vais faire plaisir à mon joueur. Hein. S'il se sent pas, même si le scénario faisait que... ça reste un coach de haut niveau qui va dire bah non, je me sens pas que tu mettes ton équipement. c'est qu'il sait que le joueur a un impact en interne et que voilà, ça lui paraît légitime de le récompenser par rapport à ça. On enchaîne avec Trey Smith, lineman intérieur de Tennessee, 1m99 pour 150 kg. On parlait de joueur à la santé qui interroge. Forcément, Trey Smith, c'est un petit peu compliqué. Joueur qui a connu des problèmes de santé à répétition. Alors, bien entendu, j'ai oublié le nom en français. À chaque fois, j'ai le nom en anglais, mais bien sûr, ça ne me revient plus.
Oh, c'est des caillots dans le poumon.
Voilà, c'est ça. C'est... Ouais, c'est...
Des problèmes
en tout cas,
de coagulation.
Voilà, c'est ça. Problème de coagulation sanguine, merci. Qui, non seulement, ont perturbé certaines saisons, mais qui ont quasiment plombé toutes ces intersaisons, c'est ça. Avec pas mal de traitements, en l'occurrence, pour s'occuper de ça. Et paradoxalement, ça l'a pas empêché d'être performant. Donc, c'est vrai que tout n'est pas parfait du côté de Trey Smith. Et encore une fois, ses problèmes de santé l'amènent à être un petit peu... j'allais dire déjugé, mais oui, en tout cas, un petit peu malmené dans certaines mocks, hein, où on le met carrément 4e, 5e tour. Moi, j'avoue que j'irais plus vers un 3e grand maximum, parce que je trouve qu'il y a quand même une sérieuse base de travail, malgré tout, dans ce qu'on voit. En termes de main violente, je pense que c'est pas mal. J'en avais parlé également lors de la face-à-face, il me semble que c'était avec Tidarell Staton de Florida. Il a une aptitude sur le pass pro que je trouve vraiment intéressante. Donc très franchement, c'est en tant que garde gauche, ça me paraît vraiment être un profil sûr dans un premier temps. Après encore une fois, faut espérer bien entendu que ses soucis de santé s'atténuent au fur et à mesure. Mais c'est vrai que voilà, de ce qu'on en a vu, c'est clairement pas rassurant. Mais voilà, encore une fois, d'un point de vue productivité, comme London Dickerson, ça peut apparaître comme un pari. Mais très clairement, je pense que ça peut être un pari qui a largement le potentiel pour être un titulaire dès la première saison.
Ah, mais quel talent. Moi, je me rappelle sa saison freshman, je l'ai vu arriver, je me suis dit, waouh, mais alors lui, c'est le prochain Tyron Smith, c'est left tackle de folie, je pensais que ce serait un top 5 de la draft. Et...
Il a commencé tackle gauche, il me
voilà.
semble.
Voilà, et oui, c'est ouais. ça, c'était un tackle gauche, il était extraordinaire, vraiment, avec un avenir. En plus, c'était vraiment un gros leader à Tennessee, c'était le porte-parole de l'équipe, c'est extraordinaire ce joueur, mais qui a eu ses problèmes de santé, malheureusement. Après, il a montré en tant que guard à gauche qu'il est tout à fait solide. Moi, je le mets même au deuxième tour sans aucun souci parce que vraiment, il est grand, il est imposant. En plus, il a cette polyvalence. Je pense qu'à NFL, il va jouer à l'intérieur. Mais c'est le genre de joueur que si ton tackle est blessé, bah, tu le fais jouer un ou deux matchs à l'extérieur et il n'y aura aucun souci. Quoi. Il connaît la position, il a l'envergure pour la jouer. Et moi, il me rassure beaucoup. Après, bien sûr, il y a le problème de santé, c'est certain. Mais tu vois, ouais, ça ne l'a pas empêché de jouer cette année. Donc...
Oui, non, mais c'est ça. Et enfin, j'allais dire, c'est d'autant plus inquiétant pour les adversaires. On va peut-être pas caricaturer non plus, mais oui, en tout cas, quand tu vois le potentiel qu'il est capable d'atteindre en étant diminué quand même sur une large période, tu te dis que le pari peut valoir le coup. Très clairement, alors oui, j'y vais troisième parce qu'encore une fois, il y a une classe qui est quand même assez importante, mais je serais en effet pas du tout surpris qu'il se retrouve au deuxième tour. En effet, c'est aussi ce qu'en fait une valeur sûre, très clairement. On termine avec au niveau des valeurs sûres, pardon, avec Alex Leverwood, tackle d'Alabama, 1m98 pour 141 kg. Joueur qui a été baladé un petit peu partout hein, sur la O-line d'Alabama ces dernières années. Où est-ce que tu le vois clairement évoluer? Moi, j'avoue que j'en ai fait une valeur sûre plutôt en tant que tackle droit.
Ben pareil, eh ben exactement pareil. Alors c'est vrai, il y a des discussions pour le mettre un petit peu en garde parce que c'est pas le plus mobile. Alors il est pas hyper lent non plus, mais c'est pas le plus mobile contre des pass rushers un peu rapides. Il est parfois en difficulté, mais par contre il a des longs bras, il est très puissant pour le jeu au sol. Moi je le vois bien rester en tackle droit, hein, y a pas de problème. Hein. Il me fait penser un peu à Morgan Moses, tu vois, de Washington, ce genre de joueur grand, long bras, costaud, solide, qui est pas le plus rapide, mais par contre, voilà, il est là, il tient bien sa place. Et puis, il a beaucoup d'expérience. Hein. Comme tu dis, il a joué tackle droit, tackle gauche, il a joué garde droit. En plus, ce n'était pas n'importe où, c'était quand même Alabama. Donc, il a affronté pendant 4 ans que des pass rushers, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui sont de très bonne qualité. Il a toujours tenu sa place. Je crois qu'il a concédé 2 sacks cette année, il me semble. Il a été nommé All-American, première équipe. Joueur très solide, très fiable.
Oui, c'est ça. Et puis, encore une fois, sur le jeu au sol, ça va être un joueur mais éminemment précieux.
Oh,
très
oui.
Clairement, c'était un des pions essentiels pour Najee Harris, notamment du côté de Bama, même si Najee Harris savait faire énormément de choses. très clairement sur le jeu au sol, c'était souvent le joueur qui était suivi. Alors après, c'est vrai que encore une fois, je parlais de joueurs un petit peu désordonnés des fois. Tu sens qu'il est, en termes de réactivité, il peut des fois poser un peu question. Mais franchement, ouais, c'est un joueur qui, depuis sa campagne freshman, il est titulaire du côté de Bama. Il a joué à peu près partout. Donc très franchement, en termes de valeur sûre de joueur que tu peux utiliser dans beaucoup de domaines, je pense que ça peut être un joueur éminemment précieux. Et je le répète encore plus en tant que tackle droit. La classe m'amène à penser qu'il sera au pire un début de deuxième tour. Je pense au mieux une fin de premier. Là encore une fois, tout dépend des affinités des franchises. Mais ouais, le voir descendre en dessous de la première moitié du deuxième tour, je serais quand même assez surpris.
Ouais, je te rejoins. Ouais. Moi, je le vois le plus comme un deuxième tour, mais oui, première partie de deuxième tour.
On passe aux énigmes à présent. Mine de rien, on en a évoqué quelques-uns, mais c'est dire qu'il y a une classe quand même qui pose un petit peu question. On s'intéresse notamment à Dylan Raddons, 2 mètres, 138 kilos, tackle gauche du côté de North Dakota State, donc garde du corps particulier d'un certain Trey Lance. Lui aussi, point d'interrogation, est-ce que tu le mets énigme pour les mêmes raisons ?
Oui, pour plusieurs raisons en fait. C'est-à-dire, alors on va commencer par ça, par ses moins à la limite. C'est-à-dire que l'opposition, forcément, le niveau FCS. Ensuite, c'est un joueur qui est un petit peu nouveau à la position parce qu'il est arrivé à North Dakota State comme un D-line. Il voulait en faire un D-line, le gars. Ensuite, il a raté 2 saisons. 2017, il était blessé. 2020, la FCS a renoncé à la saison. Donc du coup, il manque quand même un petit peu d'expérience. Et puis après, son gabarit, il est un petit peu léger. Alors, c'est pas rédhibitoire. D'ailleurs, entre sa saison freshman et là, cette saison, là, je crois qu'il est redshirt junior. Il a pris du poids, mais ça manque encore un petit peu. Mais c'est pas rédhibitoire. C'est un peu comme un Brian O'Neill des Vikings, tu vois. Mais par contre, alors on va parler de ses plus. C'est qu'il est très athlétique. Il a un jeu de pied phénoménal, une grosse mobilité. Et puis en plus, voilà, vu l'équipe, l'attaque de North Dakota State, il est bon en protection et il est aussi bon pour le jeu de course. Et on l'a encore vu là au Senior Bowl. Donc il sait tout faire. Après, voilà, c'est un peu une énigme, nouveau à la position et à développer.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on cherche un tackle gauche établi, c'est peut-être pas celui, en tout cas à court terme, sur lequel il faudra miser. Là encore, il va être très, très clairement desservi par rapport à ça. Et c'est vrai que, en tant que tackle droit dans un premier temps, là aussi, ça peut être un profil intéressant, même si tu le disais, il y a une mobilité qui peut lui permettre à terme d'être relocalisé de l'autre côté. Mais c'est vrai, en effet, que dans un système à North Dakota State qui était quand même massivement orienté sur le jeu au sol, il n'y a rien qui permet de totalement rassurer sur son aptitude à être vraiment efficace en un contre un sur le pass pro. Donc c'est aussi ce qui en fait une énigme par rapport à bien d'autres. Et en effet, il est quoi à tes yeux ? Deuxième tour peut-être à l'heure actuelle ?
Ah oui, c'est une énigme, mais c'est deuxième tour.
C'est un bon solide ouais, deuxième ouais, tour. Ouais, peut-être ouais, fin ouais. Deuxième tour grand maximum vu le contingent, mais... Donc à surveiller de près. Alors moi je vais parler de James Hudson, tackle de Cincinnati, 1m95 pour 137 kilos. Lineman offensif qui a été important, hein, notamment dans la belle saison des Bearcats cette année. Hein, Cincinnati qui était pas très très loin des playoffs en l'occurrence, même si on sait qu'il joue dans une conférence un petit peu desservie par rapport à ça. Mais en tout cas, des bons atouts pour James Hudson notamment. Il y a une bonne mobilité, très clairement à mettre à son crédit. On va dire qu'il y a quand même cet alliage d'agressivité et de mobilité qui forcément laisse à penser que avec un meilleur dosage, on va dire, en NFL, ça peut être un joueur extrêmement intéressant. Moi, ce qui me perturbe énormément avec James Hudson, on parlait de trous d'air tout à l'heure avec je sais plus trop qui, c'est un peu les trous d'air mentaux, moi, qui m'inquiète avec James Hudson. C'est-à-dire que il y a ce côté, sur un jeu, il peut perdre pied totalement. Et j'avoue, on l'a vu, alors je me rappelle notamment, encore une fois, je vais pas résumer sa prestation universitaire à ce match-là, je me rappelle du match à Georgia notamment où il prend un flag absolument stupide sur un casque, c'est pas un casque en avant, mais en tout cas, ça en était pas loin. Il y a d'autres rencontres en effet où je l'ai senti un petit peu s'éteindre en fonction des séquences. Là, très clairement, on est dans le profil brut. Et là, c'est pareil, le coaching staff va avoir son rôle très clairement pour vraiment savoir si... est-ce qu'il sera meilleur à gauche qu'à droite ? Moi, pour moi, je vois plus démarrer à droite dans un premier temps. Hein. On a vu du côté de Cincinnati, le jeu au sol a vraiment contribué, enfin a vraiment été efficace, notamment dans son sillage. Mais ouais, on va dire que c'est un joueur vraiment à savoir contenir. Pas d'un point de vue caractère hors terrain, mais vraiment sur le terrain, peut-être contenir cet excès d'enthousiasme qu'il a tendance à montrer et qui moi peut avoir tendance à m'inquiéter un peu.
Ouais, c'est ça, t'as parlé d'agressivité. De suite, j'ai pensé à ce match-là contre Georgia où il pète un peu les plombs n'importe comment. Ouais. Et je te rejoins, moi je le vois bien tackle droit parce que je le trouve très bon pour la course, il est très solide. Pour le jeu au sol, moi je le vois bien à droite. Et puis c'est un joueur qui, il me semble, il a été titulaire que cette année en fait. Donc il y a pas mal de développement à faire. Donc c'est un pari à prendre, c'est pour ça aussi que c'est une énigme. Mais il y a du potentiel, un pari à prendre, quelqu'un à développer et ça peut donner un bon joueur, solide joueur.
Oui, non, très clairement. Après, voilà, il y a beaucoup d'outils à disposition, mais voilà, après, faut ranger ça par compartiment.
Oui,
faut avoir un bon coach, notamment de O-line, pour gérer ça. Tu veux nous parler également, pour finir avec les énigmes, Jean-Mi, d'un profil atypique du buzz du Senior Bowl, n'ayant pas peur des mots, Cole Miners, lineman intérieur centre de Wisconsin, c'est quoi
Whitewater.
Whitewater, pardon.
Ouais, l'eau blanche.
N'importe quoi. Oui, l'eau blanche, la fameuse eau blanche de Wisconsin.
Eh oui.
Donc, équipe de 3e division, en l'occurrence. Alors, on sait qu'il a. Alors, 1m92 pour 145 kilos. Donc, ça reste quand même un beau bébé, même si je t'avais dit en off, il est un peu tassé par rapport à d'autres. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire 2m5 sur chaque position non plus. Mais ouais, en tout cas, joueur qui avait pas mal bluffé, notamment aux entraînements du Senior Bowl. Est-ce que tu le vois aussi intriguant et potentiellement avec un niveau qui peut être similaire à terme à celui d'Ali Marpet, qui est le dernier joueur de 3e division notable qui avait été drafté à l'époque par les Bucks, donc nouveau vainqueur du Super Bowl, drafté à l'époque au 2e tour.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne comparaison. Bon, après, Marpet a peut-être des attributs physiques qui se projettent un peu plus sur la NFL, un petit peu plus grand, un peu plus élancé, tu vois. Mais Quinn Meinerz, oui, il a fait sensation parce qu'il joue très bas sur ses appuis, parce qu'il est physique, parce qu'il est humble. C'est un travailleur, ça se voit sur sa vidéo, là, Canada Workout, c'est impressionnant comme il s'entraîne dans la forêt. Après, c'est sûr que le souci, tu viens de Division 3, donc quand tu vois des images de lui, et oui, évidemment, on dirait un homme qui joue avec des adolescents, il les défonce tous, mais c'est de la Division 3.
Et puis, du coup, il se repose un peu sur ses acquis, donc niveau athlétique, c'est pas celui vers qui on va plus regarder, quoi.
Oui, c'est ça, forcément, NFL, il va se dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe là d'un coup, ouais, oui, non, c'est plus pareil, tu vois. Donc, l'énigme, en fait, elle est là, hein. c'est par rapport à qu'est-ce qu'il va pouvoir faire face à une autre opposition. Alors, on l'a vu au Senior Bowl, évidemment, c'est quand même une indication, mais ça reste quand même que de l'entraînement. Donc, et on verra ça en NFL, parce que voilà, l'opposition, c'était pas ça. Puis même le coaching, je dénigre pas du tout les entraîneurs de Division 3, mais bon, a priori, les meilleurs entraîneurs sont dans les meilleurs programmes, en Division 1, puis en Division 2, puis en Division 3. Donc là aussi, en termes techniques, etc., il y a beaucoup de développement à faire. Mais c'est un joueur très intéressant, c'est quelqu'un de précieux, à mon avis, à avoir dans un roster. Parce qu'en plus, il a le gabarit, il peut te dépanner en guard aussi. Hein.
Oui, non, très clairement. Du coup, en termes de projection, ça donnerait quoi pour toi?
Ah, je sais pas. J'ai envie de dire 4e tour parce que ce mec-là, voilà, il me fait plaisir, il me fait envie, tu vois. Mais je pense que ce sera plus 5e tour.
Ouais, je t'avoue, j'avais mis un bon 5e tour en amont de cette émission. Mais oui, non, pourquoi pas. Hein. Après, c'est sûr que oui, il a peut-être pas les compétences athlétiques que pouvait avoir un Ali Marpet, qui vraiment avait beaucoup rassuré dans ce domaine-là, avec les mêmes inquiétudes à l'époque sur le niveau d'opposition. On a vu qu'il a rassuré depuis. Mais ouais, du côté le Cole Miners, c'est vrai que voilà, on va dire pour les highlights aux entraînements en 1 contre 1, c'est un joueur qu'il est pas bon d'affronter. Après, en circonstances de match, il y a peut-être un petit peu autre chose. Il n'y aura pas que de la confrontation en 1 contre 1 à chaque fois. Et voilà, quand ça va blitzer ou ce genre de choses, ça peut être panique à bord.
Ouais, exactement. Et un petit truc pour nos auditeurs, s'ils veulent le trouver sur YouTube, donc ça s'appelle Canada Workout. Et c'est pas Cole son prénom, c'est Quinn. Quinn Miners. Pour qu'il le retrouve, quoi, tu vois.
Ah, j'ai dit Cole. Oh,
ouais, bonne. Ouais, c'est
d'accord,
pas grave.
Ouais. Ok. Tu fais bien de rectifier, en effet. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc 5e tour, on a dit. J'ai pas posé la question pour James Hudson. Moi, pour moi, il était plutôt 3e tour dans ces eaux-là.
Ouais, c'est ce que je verrais aussi. Ouais. Peut-être une fin 2e, c'est possible, mais je pense plutôt 3e tour.
Très bien. On termine avec les pépites.
Allez.
Jean-Mi, sur la ligne offensive. Et on commence par un autre joueur qui a marqué pas mal de points du côté de Mobile pour le Senior Bowl, Deontay Smith. 1m98 pour 133 kilos. Joueur qui a été assez discret, notamment de par son programme. Hein. East Carolina, c'est pas forcément le programme le plus en vue au sein de la première division universitaire. Pourtant, il y a pas mal d'armes. Il y a un style offensif assez aérien. et mine de rien un profil qui peut à terme évoluer à gauche.
Oui, ah ben moi je pense, ouais. Et puis tu vois, tout à l'heure on parlait du tyrannosaure Rashawn Slater, mais alors lui c'est vraiment l'inverse, il a des bras mais immenses, il peut se gratter les genoux sans se baisser, quoi. Ça se projette bien à NFL aussi, parce que c'est comme pour un boxeur, il a vraiment l'avantage de l'allonge, et en plus il s'en sert très bien, c'est-à-dire qu'il a des mains actives, dès qu'il a posé les mains sur le lineman, il le lâche plus, et puis il le percute, quoi. Alors en plus il a une bonne mobilité, je trouve. Alors j'allais venir sur les soucis, c'est peut-être des soucis de blessure, puisqu'il a eu lui aussi des blessures. Après au niveau de gabarit, donc il est grand, il a des longs bras, mais il manque un petit peu de masse musculaire. Bon, ça après on s'en fait pas avec les programmes, on sait qu'ils trouveront une solution pour qu'il prenne du poids. Et puis bon, l'opposition aussi. Mais là aussi il me fait penser à un joueur, tant avec ses caractéristiques au niveau du jeu, que finalement de là où il vient, c'est Terron Armstead des Saints, qui lui aussi venait d'un programme pas très réputé, etc., mais qui finalement a trouvé sa place et fort bien en NFL. Et je pense qu'avec un bon coaching, Dante Smith, ça peut le faire.
Tout à fait. À quelle position dans la draft, j'entends?
Ah, moi, je dirais quatrième tour. Il y a quand même un sacré potentiel et je pense qu'au quatrième tour, il y a une équipe qui va miser sur lui.
Je pense également, oui, c'est vrai que c'est un profil vraiment... Là, pour le coup, certes, au Senior Bowl, il a marqué des points à l'entraînement, mais même en match, j'ai trouvé assez intéressant. Et c'est vrai que pour avoir revu après des tapes derrière, c'est vrai qu'encore une fois, voilà, c'est difficile à se figurer, c'est difficile à s'infliger les matchs de East Carolina, ouais. Globalement, tout n'est pas rose en attaque, même si, encore une fois, il y avait un bon combo QB receveur. Mais on voit que sur la ligne, quand même, c'est un joueur qui est assez difficile de franchir. Et je te rejoins en l'occurrence sur ce choix de Diante Smith de ce East Carolina. Autre profil de salle de ambiance, on passe à Ben Cleveland, garde de Georgia, 2m01 pour 160 kg. La brutasse de cette classe, je pense qu'on peut le dire.
C'est ça, exactement, c'est ça, voilà. Il est grand, il est costaud, il te met la main dessus, il te met au sol, et voilà. Et puis c'est une valeur sûre, parce que c'est le gars, il joue à Georgia depuis je sais pas combien d'années, on dirait que ça fait 10 ans qu'il est là, il est tout le temps là. C'est vraiment le joueur fiable, alors c'est pas le plus athlétique non plus, mais il est tellement puissant, on aurait presque pu le mettre en valeur sûre, Ben Cleveland.
Ouais. Très clairement. C'était ta suggestion initiale, hein, je le précise d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est sûr que... On va dire que c'est un joueur qui forcément aura des restrictions en termes de système. C'est un joueur que tu vas avoir du mal à utiliser sur de la zone, par exemple, hein, très clairement. Mais voilà, dans un jeu massivement porté sur du jeu aérien, je pense que voilà, c'est un joueur qui va être très très difficile à bouger et qui est très très agressif dès le contact. Donc franchement voilà, ça fait partie de ces joueurs. Les linemen de Georgia, ils font rarement du bruit, mais voilà, je pense à un Solomon Kindly par exemple qui a atterri du côté de Miami de manière assez discrète et qui a fini titulaire. Donc vraiment c'est des joueurs qui arrivent quand même à trouver un rythme de croisière assez rapidement et à s'imposer notamment sur le jeu au sol. Donc vraiment Ben Cleveland, je te rejoins, ça aurait pu être une valeur sûre. Après, moi, c'est ce que je te disais en off, je le mettrais plus en pépite parce que je le vois peut-être pas aller au-dessus du quatrième tour. Tu as sans doute un avis différent.
Oui, c'est possible parce que moi, je vois bien, tu vois, au niveau des choix compensatoires après le troisième tour, ouais. Je le vois partir à partir de là, à partir du choix 100.
Fin troisième.
Ouais, toute fin troisième, moi, je pense, parce qu'il est tellement fiable que tu peux miser sur lui, voilà, tu auras pas un monstre, tu auras pas un all-pro, mais tu sais que tu auras un starter, ouais. Tu auras un starter pendant 5, 6, 7 années, donc ça vaut le coup.
Ouais, très clairement. Il faudrait qu'il te redresse par Minnesota, du coup, comme ça il jouera avec Ezra, et puis on aura, ouais. On aura une ligne homonyme. ouais. Blague à part.
Ou au Browns, mais...
Oui, bah, ça c'est encore plus évident, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. On termine avec Sadarius Hutcherson, garde de South Carolina, 1m95 pour 145 kg. Beaucoup d'expérience à la disposition du lineman offensif des Gamecocks. Après, c'est peut-être un joueur qui a été assez polyvalent du côté de South Carolina, mais qui n'aura peut-être pas la même polyvalence en NFL.
Non, je pense pas. Ouais, il a joué tackle, il a joué guard, mais je pense qu'il sera guard en NFL. Ouais. Il est puissant, voilà. Déjà, il est puissant pour le jeu de course, il est puissant. Il est athlétique, c'est un ancien Titan, donc il bouge bien aussi. Des petits problèmes d'équilibre, des petits problèmes en protection de passe aussi. C'est pour ça que je pense qu'il jouera à l'intérieur. Mais c'est typiquement le gars qui était bon comme tackle à l'université, mais qui jouera à l'intérieur en NFL. Un petit peu comme un James Carpenter, par exemple, tu vois, qui était tackle à Alabama, et puis qui a essayé en NFL, ça n'a pas marché. Et puis finalement, recentré guard, ben, ça marche plutôt pas mal. Voilà, c'est ce type-là de joueur qui est assez solide. Il a un bagage technique, il a de l'expérience, comme tu dis. Je crois qu'il a fait 5 saisons là, avec South Carolina. C'est un bon joueur.
Ouais, c'est ça. Alors après, je discernais tout à l'heure la mobilité, on dirait latérale, et le côté un petit peu décrocheur. Là, c'est sûr qu'il a cette aptitude malgré tout à décrocher. C'est moins évident en termes de mobilité latérale, où là, en l'occurrence, tu parlais de ces problèmes d'équilibre qui peuvent très très clairement le desservir et en effet exploser assez rapidement le quarterback. Donc au mieux, ça peut être une solution de rechange pour jouer tackle droit, et encore, j'en suis pas extrêmement persuadé. De par sa réactivité, je trouve un petit peu aléatoire. Du coup, tu m'as donné son tour ?
Non, mais je pense que c'est à partir de la fin du cinquième tour.
Oui, je pense. À mon avis, un bon cinquième tour aussi pour Sadarius Richardson, ça ne m'étonnerait pas. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Encore une fois, sur une classe qui était assez profonde, très très clairement d'ailleurs. Pas mal de candidats au premier tour dans cette émission, notamment sur les postes de tackle. Merci en tout cas, Jean-Michel, d'avoir été en ma compagnie pour... analyser cette classe de linemen intérieur et pour avoir parlé en ma compagnie des fameuses mains violentes, des futures mains violentes du dimanche soir. Merci également à Alain Mazzelli pour la technique. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour notamment aborder le chapitre défensif avec notamment le pass rush, le run stop, le backfield défensif, etc. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.
Hey, ciao tout le monde.
Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch, Rocklass Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.